Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier.
Quand ?
Toujours la même heure.
88.8.
Je réécoute encore et encore.
Chouette.
Chouette. Le 13-30.
Nous sommes avec Chantal Talent pour l'école du renouvellement urbain. Chantal Talent qui est invitée à une soirée organisée par les habitants de la Belle de Mai. Une soirée en vue de créer un conseil citoyen à la Belle de Mai. Et c'est un peu de conseil citoyen que nous allons parler avec Chantal Talent. Bonjour Chantal Talent.
Bonsoir.
Alors Chantal Talent, conseil citoyen, c'est un dispositif dans une loi qui a été votée il y a peu, en février 2014, le 21 février 2014 d'ailleurs. Elle s'inscrit un peu dans une logique d'une nouvelle politique de la ville hein, qui se met en place. La première question, pourquoi aujourd'hui retravailler un conseil citoyen alors que des espaces de, disons, de participation des habitants existaient déjà à Marseille, il y a les comités d'intérêt de quartier. Pourquoi voilà, ces nouveaux conseils citoyens ?
Donc je pense que c'est, en tout cas, Monsieur le ministre Lamy a voulu vraiment transformer en profondeur et la politique de la ville. C'est une politique de la ville qui a maintenant 30 ans et qu'on devait revisiter au niveau de ses territoires, puisque en 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses, et en particulier une situation de crise économique qui a marqué profondément certains quartiers, pas simplement les quartiers d'habitat social. Donc il a revu la géographie prioritaire, mais il a été aussi plus loin dans le mode d'organisation même du projet du contrat de ville et de sa vie, en proposant que les habitants soient vraiment des acteurs comme les autres acteurs, les acteurs politiques, les acteurs techniques du projet. Alors, pour ça, il a conduit, avant de faire cette loi, toute une série de travaux. Hein. Il y a eu des ateliers, le rapport de M. Mechmach et de Mme Baquet, qui ont vraiment montré qu'il fallait renouveler, là aussi, les formes de participation des habitants, et que ce qu'on proposait auparavant, eh bien, était largement insuffisant.
Alors ces conseils citoyens sont donc, comme on le disait, dans le cadre de la politique de la ville. Pour les éditeurs, préciser que la politique de la ville, c'est dans certains quartiers. Hein, ce n'est pas à l'échelle de toute la ville, mais c'est bien dans certains quartiers ciblés, notamment des quartiers où il y a des plans de rénovation urbaine. On peut aussi constater que cette dynamique de participation des citoyens, de faire en sorte que les citoyens participent à la décision, se répond aussi à une crise, d'une certaine manière, de la démocratie, particulièrement aussi dans ces quartiers.
Je pense que depuis quelques années, on ne peut que admettre ce fait-là. C'est-à-dire que on voit que les quartiers, en particulier les quartiers les plus pauvres, ben les gens se sont un peu éloignés de, ben, la chose publique, des institutions, comme si cela ne les concernait plus. Il y a certains sociologues qui parlent de nouvelle invisibilité. Alors vous avez raison, les quartiers ne sont concernés que les quartiers de la politique de la ville, qui ont été déterminés par un critère unique, qui est le critère de la pauvreté, donc du revenu des ménages en dessous des médians. Et dans ces quartiers-là, tout particulièrement, faire participer les habitants à la chose publique, c'est aussi une idée de refaire croire à la question du vivre ensemble, de trouver une nouvelle relation par le projet, par un projet partagé, entre la question institutionnelle, des institutionnels, la question politique et des habitants eux-mêmes.
En même temps, comme on le disait tout à l'heure, il y a une histoire de cette participation des habitants, et il semblerait que la crise de la démocratie représentative, en tout cas de la question de l'abstention, continue de se poursuivre.
Je pense que, pour ma part, je ne ferai pas l'amalgame entre ce qui est la question de la démocratie représentative et la mise en place des conseils citoyens. C'est-à-dire, je ne ferai pas l'amalgame pour que, d'un seul coup, les habitants se sentent instrumentalisés par cela. Je pense que c'est vraiment un autre mode de faire qu'on nous propose. C'est, est-ce que la ville, le quartier, peut se transformer, que ce soit d'un point de vue social, économique, urbain, c'est-à-dire pour que les gens vivent mieux, sans que les habitants prennent part dans leur quartier. Pour ma part, je pense que les quartiers populaires ont toujours fait preuve d'innovation, innovation qu'on ne connaît pas forcément. Les gens, ils font des choses, ils inventent des choses. Et les conseils citoyens, c'est aussi reconnaître cette capacité, c'est pour ça qu'on a parlé du pouvoir d'agir, capacité d'innovation des habitants.
Peut-être un mot, disons, des résistances et des résistances un peu culturelles hein, qu'il peut y avoir en France vis-à-vis de cette participation des habitants aux décisions, et notamment d'abord de la part des élus, car justement, dans un cadre d'une démocratie représentative, en France, souvent les élus considèrent qu'ils ont, eux, la vision de l'intérêt général.
Oui, les élus pensent ça, comme les techniciens pensent qu'ils savent et que les autres ne savent pas. Donc, on voit bien comment chacun, on est dans des postures un peu d'entre-soi, des postures de pouvoir. Personne n'y échappe. Je crois que les habitants n'y échappent pas non plus. C'est peut-être aussi les crises qu'il peut y avoir au niveau des milieux, des habitants eux-mêmes qui sont constitués en association. L'enjeu, c'est vraiment de faire bouger les cadres. Moi, je dis souvent, c'est de se poser la question pourquoi on est ensemble et pas pour qui on est ensemble. C'est vraiment, c'est ça qui va faire la richesse du projet. Cela d'autant que je suis vraiment convaincue que la ville aujourd'hui, cette ville qu'on refait sur elle-même, elle a besoin, ce que j'appelle les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et des maîtres d'usage. C'est intrinsèque à la ville que l'on refait. C'est-à-dire que Thierry Pacaud dit la ville, c'est un palimpseste, elle se réécrit toujours sur elle-même. Eh bien, les habitants sont des auteurs de cette écriture, comme sont les élus, etc. Alors, pourquoi ça résiste? Parce qu'on n'aime pas trop faire bouger les cadres. On a toujours un peu peur de choses qui sont un peu différentes. Ben voilà, il faut qu'on bouge ensemble ces trois cadres-là.
Il y a trois conditions pour faire la ville.
C'est pas de moi, c'est d'un urbaniste, François Gréter, qui dit « La ville, elle se fait avec les maîtres d'ouvrage, au niveau stratégique, politique. Quelle pensée j'ai de la ville pour aujourd'hui, mais pour demain ? Elle se fait avec les techniciens, bien évidemment, les maîtres d'œuvre, et elle se fait avec les maîtres d'usage, ceux qui vivent la ville, qui sont les habitants. »
La maîtrise d'usage qui n'est pas encore un droit en France.
Qui n'est pas encore un droit. Alors, on avance quand même, hein, parce qu'aujourd'hui, dans certaines universités d'urbanisme, on commence à parler des maîtres d'usage. Mais l'atelier Montrouge, les années 70, on a commencé à dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait que les archis et les urbanistes qui pensent la ville, il fallait aussi les géographes, il fallait aussi les sociologues. On voit bien, on est toujours dans cette difficulté-là. Je reprendrai la phrase de Marcel Roncoyalo qui dit « L'urbanisme, ça n'existe pas, c'est que la convergence de plusieurs disciplines. » Dans cette convergence de plusieurs disciplines, il y a la discipline de la maîtrise d'usage qui est portée par les habitants.
Qu'est-ce que c'est que l'innovation sociale ?
Alors, pour moi, l'innovation sociale, c'est à chaque fois ce que je découvre, ce qui se fait dans les quartiers et que nous, les techniciens, nous, les représentants institutionnels, parce qu'on est dans des cadres formatés, on n'imagine pas. Et là, c'est ça, cette question de l'innovation. C'est l'innovation dans le faire, dans la fabrique de ce que les gens construisent dans leur quartier, mais c'est aussi l'innovation dans les démarches que les gens pourront faire eux-mêmes pour rassembler d'autres.
À vous entendre, j'ai le sentiment que vous dites, finalement, vous, en tant que technicienne, d'une certaine manière, j'ai besoin de ces conseils citoyens pour évoluer moi-même dans ma propre intelligence, d'une certaine manière.
Je pense vraiment que c'est un point très, très important, ce que vous dites là. Parce que, en fait, c'est vraiment par cette rencontre de regards différents, de regards croisés, qui fait évoluer nos métiers. Autrement, on est complètement modélisé par notre culture, par nos savoirs, et qu'on a besoin d'être un peu poussé pour bouger. Et c'est vrai qu'avec les conseils citoyens, je pense que pour nous, professionnels, c'est une vraie chance. Ce n'est pas des ennemis à nos pratiques. Bien au contraire, c'est un plus pour nous. Un plus qui nous fait interroger sur nos pratiques pour aller plus loin.
C'est une chance contre l'appauvrissement.
C'est une chance contre l'appauvrissement de nos métiers. Oui, j'en suis convaincue.
Et c'est aussi l'occasion de retrouver l'art de la négociation.
Oui, alors ça je le dis souvent, on dit que la ville c'est l'altérité, mais si c'est l'altérité, c'est la négociation. Et je crois beaucoup à la question de savoir négocier, être avec les autres, parler avec les autres, sans avoir toujours besoin d'une sorte de pouvoir supérieur, d'une structure supérieure qui viendrait négocier à la place. C'est-à-dire que moi ça m'interroge beaucoup cette question-là. C'est-à-dire que pourquoi on n'ose plus dire à quelqu'un qui a une conduite un peu incivile, non, les papiers ça ne jette pas par terre, non mais pas c'est... Pourquoi on n'y arrive plus ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive plus? Est-ce que c'est la pensée que de toute façon quelqu'un d'autre va s'en occuper? Donc moi je pense que ça c'est intéressant parce qu'on est tous responsables de cette altérité. Et voilà, je pense qu'avec les conseils citoyens, on va aussi réapprendre ça, la négociation.
En France, se développe un peu partout, à Marseille c'est le cas par exemple, à la Friche Belle de Mai, de projets d'habitat participatif. On parle alors d'habitat dénormé. Dans quelle mesure ces conseils citoyens pourront faire des villes dénormées?
Alors ça c'est une question sacrément compliquée. Hein. En tout cas, là aussi, si on prend l'exemple de l'habitat participatif, on voit bien que dans les modes de faire, d'habiter, pour les architectes, c'est un vrai enrichissement. Comment ils vont travailler avec les habitants? On pourrait penser qu'à une échelle plus large, même sur les questions de la ville, oui, il y a des choses sur lesquelles on ne pense pas et qui vont dénormer nos propres pensées. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple. Sur la question de la voiture, aujourd'hui c'est un véritable enjeu, en particulier dans les écoquartiers, etc. Il faut qu'il y ait moins de voitures, il faut moins de place pour les voitures. Mais si on regarde bien, il y a une enquête qui a été faite par une anthropologue, pardonnez-moi, je ne me rappelle plus le nom, qui expliquait que les voitures, elles jouaient un rôle essentiel parce que c'était aujourd'hui le lieu qui servait de stockage dans des appartements trop petits. Donc si on imagine et si on regarde attentivement les choses, si on veut supprimer les voitures, moi je suis assez pour qu'on donne plus de place aux piétons dans la ville, peut-être qu'il faut réfléchir à des lieux de stockage, dans les appartements, dans des espaces, autres, de, je ne sais pas, enfin, il y a plein de choses qu'on imagine, que certains architectes imaginent ailleurs.
Je pensais aussi dénormer au sens de comment un certain nombre de réglementations, qui sont parfois voilà, des normes, parfois contraignantes, et parfois qui sont liées à ce que vous pointez tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de déresponsabilisation qui engage un certain nombre de normes, comment on peut retrouver de la marge, hein, et sortir un peu parfois de ces réglementations lourdes?
Je pense que, en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, peut-être d'arrêter de penser la ville qu'en investissement technique. C'est-à-dire que la ville, c'est du technique, c'est des tuyaux, c'est des réseaux, mais c'est aussi beaucoup d'intelligence. Donc, comment on arrête forcément nous-mêmes d'appliquer nos propres modèles urbains? Là, je travaille actuellement sur un colloque avec nos amis belges et avec Jean-Luc Callongé qui a mis en place la question de la transformation de l'organisation des lieux publics avec les habitants et qui part d'un principe que ça doit être évolutif. C'est-à-dire que on ne sait pas des fois, une fois pour toutes, comment la place doit être. On se donne les capacités dans nos projets d'avoir des modes d'évolution. Là, du coup, on n'est plus dans les normes. Mais voilà, c'est une autre manière de faire.
Dans ces conseils, souvent sur la participation des habitants, et sans doute lié à leur méfiance vis-à-vis de ces questions de participation, c'est que finalement, on vient les interroger, les consulter à partir d'une question. Et finalement, celui qui pose la question, c'est celui qui a déjà un petit peu la maîtrise du projet, d'une certaine manière. Comment les conseils de citoyens pourront être auteurs de questions, c'est-à-dire de saisir d'un espace en friche, dans le quartier, et puis de dire, voilà, nous aimerions qu'à cet endroit-là soit posée une question, qu'il ne soit pas uniquement des habitants qui répondent à une question.
C'est l'enjeu de la co-construction. La co-construction, c'est ça. C'est-à-dire que la co-construction, c'est pas qu'est-ce que vous en pensez, c'est aussi qu'est-ce que vous proposez. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose ensemble. Donc je pense que le pouvoir d'agir, c'est lié à la question de la co-construction. Donc là, c'est là où il va falloir, à mon avis, que tout le monde travaille ensemble, tout le monde gagne dans l'écoute de l'autre, pas l'écoute des grandes oreilles, mais d'en prendre au sérieux ce que les autres disent et que ça peut marcher même si on n'a pas eu soi-même l'idée.
88.8.
Je réécoute encore et encore.
Nous sommes avec Chantal Talant pour l'école du renouvellement urbain. Chantal Talant qui est invitée par les habitants de la Belle de Mai en vue de créer un conseil citoyen à la Belle de Mai. Alors on va rentrer un petit peu en détail dans cette loi du 21 février 2014 puisque finalement c'est une loi qui nous amène d'une certaine manière vers cette maîtrise d'usage. On va rentrer en détail, mais la première chose c'est que finalement on ne pourra pas non plus trop rentrer en détail parce que c'est une loi assez ouverte.
Alors, ça, c'est un point que moi, j'aime beaucoup, parce qu'on a l'habitude de cas, de règlements, puis qui sont des fois un peu des corsets, quoi. On rentre dedans ou on n'y rentre pas. Là, il y a des objectifs. C'est l'objectif, c'est un conseil citoyen autonome qui reconnaît la capacité d'agir des habitants. Pour autant, ce qui est dit dans le même texte de loi, c'est l'adaptation à la situation locale. C'est-à-dire que ça sera un conseil citoyen ici, ce ne sera pas le même que dans le Nord, etc. Ça veut dire aussi que des fois, il y a des comités de quartier qui existent, des associations, etc. Et que le conseil citoyen ne sera pas le seul ressort exclusif de la participation des habitants. C'est un élément clé, mais néanmoins, il devra prendre en compte la situation locale et aussi s'ouvrir à d'autres, et comme je le disais précédemment, à ceux qui sont les plus loin des espaces de concertation.
Sauf que le conseil citoyen, lui, va siéger au comité de pilotage des plans de rénovation urbaine.
Alors, au comité, surtout au contrat de ville, puisque aujourd'hui, les programmes de renouvellement urbain, et non pas de rénovation urbaine, sont inscrits dans les contrats de ville, dans un des volets du contrat de ville, mais le conseil citoyen sera sur tous les volets du contrat de ville, que ce soit sur les actions sociales, les actions de santé, les actions culturelles, les actions économiques et sur le renouvellement urbain, quand le quartier sera inscrit en renouvellement urbain.
Il sera doté de financement pour son fonctionnement ?
Alors, il y aura des moyens qui seront donnés, puisqu'on dit qu'il faut qu'il y ait une personnalité morale, que ça soit autonome, et il y aura des moyens qui seront donnés par la politique de la ville.
Il pourra, par exemple, commander des études ?
Alors, ça, c'est tout l'aspect où on dit aussi que les membres des conseils citoyens peuvent avoir besoin d'expertise, peuvent avoir besoin d'experts, y compris de formation.
Donc c'est prévu par la loi. Sur cet aspect de la composition, qu'elle soit, disons, la plus diversifiée possible, en tout cas qu'elle représente l'ensemble du quartier, comment on peut évaluer une représentativité ? C'est très compliqué.
Ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que le tirage au sort, c'est formidable. Parce que le tirage au sort, bien évidemment, il faudra prendre la liste la plus exhaustive des habitants des quartiers. Mais le tirage au sort, on sait que c'est l'exercice qui garantit le plus que ça soit bien représenté.
Au niveau de l'autonomie, comment on mesure l'autonomie ?
Alors là, d'un point de vue juridique, il faut que le conseil citoyen soit doté d'une personnalité morale. C'est-à-dire que se constitue en une association propre. Elle ne peut pas être confondue à une autre association existante. Elle peut, à un temps donné, le temps de se constituer. C'est-à-dire que les gens ne vont pas d'un seul coup mettre tout en place dans un délai très court. Mais à terme, elle doit être autonome. Donc après, ce conseil citoyen, pour ce qu'il représente, eh bien, pourra travailler avec d'autres. C'est ce que je disais précédemment. Alors, la question du lobbying, ce que je trouve intéressant, parce que c'est un peu ce que vous me dites, c'est que, en fait, la loi, elle dit bien et elle le rappelle dans ses objectifs, c'est toujours avoir cette perspective d'aller chercher les habitants et de les mobiliser. Et pour dans les formations que nous faisons à l'école avec les habitants, il faut savoir que ça, c'est un leitmotiv pour les habitants eux-mêmes. Ces habitants qu'on reçoit à l'école en formation, c'est tous des gens qui sont engagés dans leur quartier. Et tous disent avec la même fermeté, nous ce qu'on veut, c'est rassembler plus de monde. Donc je pense que là, du coup, ça peut converger.
Quand la loi fixe des objectifs comme ça de diversité, elle met en place des outils d'évaluation ?
Bah, théoriquement, l'État sera vigilant sur qui est dans ce conseil citoyen. C'est-à-dire qu'on a parlé de la diversité intergénérationnelle, donc la question des jeunes, et je pense que le prochain conseil interministériel des villes qui se tient vendredi reviendra certainement sur cette question. L'importance que les jeunes reprennent confiance dans la vie publique, dans la chose publique. Donc c'est vrai sur les jeunes, c'est vrai sur la parité femmes-hommes. Il faut que cette vraie parité existe. Et je pense qu'il y aura un regard là-dessus, oui.
Quelques mots sur votre expérience, parce que vous disiez que vous êtes allé à Berlin il y a peu. Qu'est-ce qui se passe à Berlin en particulier ?
Je vais vous prendre deux exemples. Le premier sur une grande cité de Berlin, ex-Berlin-Est, qui s'appelle Marzahn. Ce sont les habitants qui ont travaillé. Alors eux, c'est très, très codifié, la co-construction avec les habitants, c'est obligatoire, ça fait partie du processus lui-même. Donc, ils ont travaillé sur les espaces publics, sur la conception, sur la gestion des espaces publics, de ce grand ensemble. Eh bien, du coup, l'espace public, non seulement il est de qualité, mais surtout, les habitants sont aussi participatifs de la gestion de ces espaces. C'est aussi quelque chose pour que la ville ne soit plus vécue en extériorité. L'enjeu, c'est que c'est d'où l'importance que les habitants soient dans ce processus. C'est que la ville, elle, elle, elle leur appartient. Mais il ne suffit pas de leur dire. Il faut trouver les formes et la fabrique de cette intériorité pour que les gens se sentent concernés par leur ville. C'est à eux. Donc, il faut aussi, pour qu'ils sentent que c'est à eux, qu'ils aient quelque chose dans l'espace de décision.
Et dans cette co-construction, on entend, en tout cas depuis que nous discutons ensemble, effectivement, disons, la construction intellectuelle, participer aux échanges techniques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de la construction du bâti ? Comment les habitants, surtout quand on est dans les quartiers populaires, des quartiers où il y a un taux de chômage assez important, comment les habitants du quartier peuvent être aussi les bâtisseurs de la ville ? Parce que ça joue aussi beaucoup ensuite sur le soin à la ville.
Absolument. Alors, bon, ici, vous connaissez bien Patrick Bouchain, qui a fait un livre qui s'appelle HQH, Haute Qualité Humaine, qui fait des propositions sur ça. C'est-à-dire que pourquoi pas imaginer dans l'habitat social, des habitants, ils ont tous des métiers, des compétences, etc. Eh bien, les impliquer dans la transformation, y compris du bâti, de trouver des formes ou aussi du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour l'habitant, peut-être pas forcément une rémunération, mais s'il participe à la requalification, pas simplement de son logement, mais d'autres. Enfin voilà, il y a plein de formes qui peuvent être de reconnaissance, mais qui posent, en fait, d'emblée, ce qu'on pose, c'est reconnaître aux habitants leurs compétences et reconnaître leurs compétences, les valoriser par des formes qui peuvent être des formes, je ne sais pas, moi, de peut-être aussi de rémunération, etc. Mais c'est surtout partir du constat que eux-mêmes, non seulement ont des choses à dire, mais ils peuvent aussi participer à la fabrique de cela.
Là aussi, ce sera le rôle des conseils citoyens.
C'est le rôle des conseils citoyens.
Sur ce deuxième exemple à Berlin.
Alors, le deuxième exemple à Berlin, c'est que eux, quand ils travaillent sur la requalification d'un quartier, immédiatement, ils instituent ces différents collèges et ces participations. Et pour faire vivre ces comités de quartier, enfin, je ne sais plus comment on les appelle, ils ont à leur service des techniciens, etc. Et cette structure-là est
payée par la ville.
Mais pas que par la ville, y compris par les commerçants, qui trouvent tout leur avantage, eux aussi, à ce que d'un seul coup, on trouve les moyens que tout le monde vive ensemble. Autre exemple, et j'en finirai par là sur Berlin, qui m'avait impressionné sur tout l'aménagement le long de la Spree. C'est-à-dire que, voilà, fleurissent des hôtels, de grands standings, etc. Et à côté, une toile de tente, une ville de tente, réaménagée pour des personnes sans domicile, enfin des personnes, évidemment, en extrême précarité. Les Berlinois, ils partent d'un principe, les gens sont là. L'autre question, c'est comment on intègre tout le monde dans un espace urbain.
C'est-à-dire que cette population n'a pas été exclue.
Non. Parce que, mais c'est un procédé, enfin, c'est une pensée très libérale. C'est-à-dire qu'on sait très bien que lorsqu'on exclut de plus en plus les personnes, c'est-à-dire que sur un territoire où ils avaient trouvé place, où s'était construite aussi une tolérance vis-à-vis d'eux, dès lors que vous les déplacez, eh bien, tout le travail est à recommencer. C'est ça aussi la question de l'altérité. C'est aussi la question, mais la ville, c'est quoi ? Est-ce que c'est composé que de gens qui nous ressemblent ou c'est aussi accepter qu'il y ait des gens différents ?
Comment vous expliquez cette différence qu'en Allemagne, c'est inscrit comme ça dans la culture, pourtant c'est aussi une démocratie représentative. Comment vous l'expliquez, cette différence entre la France et l'Allemagne sur ces questions-là ?
Parce que je pense qu'ils ont un mode de pensée extrêmement pragmatique. Il faut que les choses, elles fonctionnent, ils les évaluent. Alors c'est l'évaluation de l'action, c'est-à-dire qu'on a un objectif d'action et on évalue l'action. Donc, c'est moins porté par une sorte de pensée, enfin, il y a de l'idéologie, mais c'est pas aussi fort que, voilà, il faut que ça marche. Qu'est-ce qui fait, comment ça peut marcher ? Et c'est, le fil est déroulé jusqu'au bout. Exemple, autre exemple, décidément on parle que de Berlin, mais toujours dans la cité Marzahn, ils réhabilitent les logements des grands ensembles. Ce sont les locataires qui donne une note aux entreprises qui entreprennent la réhabilitation. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Chantal Talange rappelle que vous êtes directrice de l'école du renouvellement urbain. En fait, c'est une école qui propose des formations aux habitants qui s'engagent dans ces conseils citoyens. Et je crois que vous avez déjà formé plus de 200 habitants.
Je voudrais juste dire un mot parce que c'est assez exceptionnel. Cette école est financée par l'Union sociale pour l'habitat, par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, par le commissariat général à l'égalité des territoires, eh bien, c'est grâce à ces financements-là qu'on prend en charge totalement la formation des habitants pendant leur temps de formation, mais leur déplacement, leur hébergement, là, vraiment pour qu'ils viennent tous, et la diversité des habitants qui viennent à ces formations montre que ça marche.
Merci beaucoup. Merci. Chantal Talon.
Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier.
Quand ?
Toujours la même heure.
88.8.
Je réécoute encore et encore.
Chouette.
Chouette. Le 13-30.
Et en podcast sur radiogrenouille.com.